Alors une personne de la paroisse m'a proposé cette réflexion, pourquoi, pour quelle raison Jésus a-t-il été crucifié? Et en quoi est-ce que cet événement historique, effectivement, pourrait nous aider à vivre? Alors je vous propose d'abord d'entendre une interprétation proposée par Jésus lui-même dans cette parabole que nous avons dans l'Évangile selon Marc au chapitre 12. Jésus se mit à leur parler en parabole et il dit « Un homme a planté une vigne, l'a entourée d'une clôture, il a creusé une cuve et il a bâti une tour, puis il l'a donnée en fermage à des vignerons et il est parti. Le moment venu, il a envoyé un serviteur aux vignerons pour recevoir d'eux sa part des fruits de la vigne. Les vignerons l'ont saisi, l'ont roué de coups et renvoyé les mains vides. Il leur a alors envoyé un autre serviteur, celui-là aussi, ils l'ont frappé à la tête et insulté. Il en a envoyé encore un autre, et celui-là, ils l'ont même tué. Puis beaucoup d'autres. Ils les ont roués de coups, les uns, et tués les autres. Il ne lui restait plus que son fils bien-aimé. Il l'a envoyé en dernier vers eux, en disant « Ils respecteront certainement mon fils. » Mais ces vignerons se sont dit entre eux « Voici l'héritier, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Ils l'ont saisi, ils l'ont tué, ils l'ont jeté hors de la vigne. Alors que fera le maître de la vigne? Il viendra, il fera périr les vignerons et confiera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est une merveille à nos yeux. Alors ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole, et le laissant, ils s'en allèrent. Mais voilà, ils crucifièrent Jésus et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emporterait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, ils crucifièrent deux bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le reconstruis en trois jours, eh bien sauve-toi toi-même et descends de la croix ». Les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut même pas se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous croyions et que nous puissions être sauvés. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. À la neuvième heure, Jésus cria « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et ils disaient « Tiens, il appelle Élie ». Quelqu'un courut remplir de vin aigre une éponge et la fixa au bout d'un roseau pour la lui donner à boire en disant « Laissez ». Voyons si Élie va venir le descendre de là. Mais Jésus, laissant échapper un grand cri, expira. Alors voici ce que nous propose l'apôtre Paul comme relecture, comme compréhension de ce que nous apporte le Christ par sa mort. Alors que nous étions encore sans force, Christ, à ce moment, est mort pour les impies. C'est à peine si quelqu'un donnerait sa vie pour un juste. Peut-être pour un homme de bien accepterait-on de mourir. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et puisque maintenant nous avons été ainsi justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère. En effet, quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés par lui, nous avons été réconciliés avec lui, avec Dieu, par la mort de son Fils. À plus forte raison, réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Alors c'est une funeste erreur de traduction due à la différence de culture entre le monde hébreu et le monde grec. Une simple erreur de traduction est à la base d'un malentendu sur le salut que le Christ nous a apporté sur la croix. Dans nos traductions des évangiles, en effet, il est écrit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour une multitude. » Alors ce verset est manifestement essentiel, car il concentre le sens même de la mission du Christ, le Fils de l'homme, pour sauver donc la multitude des individus. Le Christ est venu pour servir, c'est donc le premier point essentiel sur lequel tout le monde est d'accord, le service. Et voici le second, pour donner sa vie en rançon pour la multitude, c'est là que ça devient délicat. Cette traduction du grec en français, donner sa vie en rançon, elle est effectivement juste littéralement, car le mot grec lutron, utilisé ici, c'est un terme technique qui signifie effectivement le prix qu'un esclave devait payer en rançon pour racheter sa servitude et devenir un homme libre ou une femme libre. C'était la coutume grecque. Pour devenir libre, l'esclave devait payer au moins sa valeur sur le marché aux esclaves. C'est normal. C'était normal, sauf que chez les Hébreux, ça ne marchait pas comme ça. L'esclave hébreu était automatiquement affranchi au bout de 6 ans de travail. Sans rien payer, nous dit la Bible, c'est prescrit dans le livre de l'Exode, par exemple. C'est ainsi que quand les Hébreux sont arrachés de l'esclavage en Égypte, c'est absolument sans rançon, sans rien à payer. C'est par grâce, nous dit la Bible. Alors que les Hébreux s'étaient mis dans le pétrin tout seuls, par faute, voilà. Eh bien, Dieu les libère par grâce, par amour pour eux, et donc, ils ne payent, personne ne paye aucune rançon dans cette histoire, ni au Pharaon, ni à Dieu, pour que les Hébreux soient libérés. Et donc, affranchir dans ce contexte, c'est libérer, c'est faire grâce, c'est pas payer une rançon. Par conséquent, plutôt que de donner sa vie en rançon, il faut comprendre donner sa vie pour nous affranchir, pour nous libérer, pour libérer la personne humaine de ce qui l'empêche de vivre, de faire le bien. Alors ça, on est libéré du péché, libéré de la mort, libéré de l'égoïsme, libéré de la colère, libéré de la religion, libéré de tout un tas de choses. Mais c'est par grâce, c'est une transformation à l'intérieur de nous-mêmes. Alors imaginez que Dieu aurait eu besoin du versement comme d'une rançon. En rançon, ce serait la souffrance du Christ, son sang, ses larmes et sa mort. Eh bien, ce serait une régression par rapport à la théologie du livre de l'Exode. La Pâque juive, elle célèbre précisément depuis des milliers d'années que Dieu affranchit son peuple gratuitement. Parce qu'il aime nous voir libres, en marche et rayonnants. Telle est la justice de Dieu, en fait, c'est ce qu'on découvre dans cette histoire du salut de l'Exode. Elle consiste à nous venir en aide, même quand nous sommes pécheurs, même quand nous sommes dans le pétrin par notre faute. Telle est la justice de Dieu, c'est simplement son amour pour nous, comme un père et une mère pour son enfant. Pour soigner, prendre soin de son enfant qui s'est cassé la figure, par exemple, un père ou une mère n'a pas besoin d'aller frapper la grande sœur ou de frapper l'enfant qui est tombé pour prix de sa faute de s'être blessé. Absolument pas. C'est l'amour qu'est la justice de Dieu. Imaginez que Dieu prendrait plaisir à la souffrance du coupable pour prix de sa faute, c'est déjà une négation de cette justice de Dieu qui est amour. Et comme si ça ne suffisait pas, il a été imaginé que la souffrance et la mort d'un innocent, Jésus, satisferait grandement la justice de Dieu. Alors cette théorie absolument abracadabrante rend un tel Dieu absolument effrayant. Il ressemble plus au Dieu Moloch dont parle la Bible. Il ressemble plus au Dieu des Aztèques, assoiffé de sang des victimes pour apporter ses bénédictions, victimes immolées si possible, fraîches, jeunes, innocentes. Au contraire, l'idée même de sacrifice humain est absolument écartée avec horreur dans toutes les pages de la Bible. Et bien sûr, la souffrance de l'innocent est un scandale aux yeux de Dieu, partout et toujours. Il est donc pas imaginable une seconde que Jésus ait été sacrifié par Dieu pour racheter nos grandes fautes et satisfaire une certaine idée de la justice. Mais alors, comment comprendre la croix ? Comment comprendre ce sacrifice, effectivement, où Jésus se donne ? La première raison d'être, à mon avis, de ces récits des évangiles, de la mort de Jésus en croix, eh bien que c'est ce qui est arrivé historiquement, que c'était absolument incontournable, parce que, à l'époque, ça a été un coup de tonnerre terrible dans la vie des disciples de Jésus, dans leur foi, dans leur espérance. Ça a été un scandale. L'exécution par la croix a été quelque chose d'abord horrible, mais aussi infamant, ridiculisant la victime. Alors nous avons entendu cette parabole de Jésus lui-même qui dit que ce n'était pas la volonté de Dieu que son fils meure. Que l'espérance de Dieu était bien sûr que les prophètes soient écoutés, il les a envoyés, on le voit bien, par grâce. Ils ont maltraité un prophète, eh bien Jésus, Dieu continue à vouloir le salut et le bien de ses vignerons, il envoie encore un prophète et encore un et encore un. Et encore plus, nous dit Jésus, eh bien, Dieu comptait bien que son fils serait respecté et entendu, que les gens comprendront enfin ce que Dieu espère, des fruits de bonté et de justice, des progrès spirituels, des progrès moraux, des progrès de bonheur et de paix. Et au lieu de ça, les prophètes ont été souvent maltraités. C'est vrai que c'est un rude boulot d'être lanceur d'alerte. Alors il est poignant, Jésus, d'entendre Jésus raconter cette parabole, parce que ce sont les paroles d'un homme qui sait les risques qu'il prend en levant la tête, en parlant de Dieu autrement que la religion établie. Il sait les risques qu'il prend. Ce sont des paroles de Jésus comme des paroles d'un Martin Luther King, d'un Guy Moquet, d'un Alexei Navalny, ou bien comme ce geste de l'homme debout devant les chars à la place Tiananmen, et dont on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais qu'on imagine un peu. Donc chacune de ces circonstances est effectivement extraordinaire, et en même temps, elles sont fréquentes, malheureusement, dans toutes les situations de despotisme ou de tyrannie. Alors évidemment, selon Jésus lui-même, sa mort n'est absolument pas la volonté de Dieu. Et ça, la mort d'un innocent, la mort d'un envoyé de Dieu, est un scandale pour Dieu, bien sûr. Et si Dieu était comme les humains de cette parabole, il aurait réagi en massacrant tout le monde, en éliminant l'humanité. Mais comme ce n'est objectivement pas arrivé, Cela prouve que Dieu n'est pas un Dieu de vengeance, mais un Dieu qui aime et qui prend soin de ses ennemis, qui continue à aimer, à espérer, à prendre soin de ceux qui se perdent dans la haine et dans le manque de bonne disposition. Cet amour unilatéral de Dieu se manifeste en réalité tout au long de cette parabole de Jésus. Et c'est inspirant pour nous, évidemment, parce que c'est une théologie, une certaine idée de Dieu, mais c'est toujours aussi une éthique qui nous est proposée, une façon d'être autour de nous. Alors l'amour de Dieu est d'abord premier dans cette parabole. Nous sommes personnellement ce bon plant de vigne dont Dieu prend soin et qu'il vient planter dans la vie en ce monde. L'amour de Dieu est ensuite dans chaque mot de cette parabole de Jésus. Dieu nous entoure de sa grâce, comme d'une clôture qui nous protège des sangliers, de tout ce qui pourrait nous démolir. Il nous donne ensuite un pressoir. C'est une image de notre capacité à aimer en réalité, à recueillir la moindre goutte de bon jus dans la vie en ce monde, dans ceux qui nous entourent, pour la valoriser, pour en faire un sujet de réjouissance comme du vin. Et il nous donne aussi une tour qui est une façon de nous dire « Vous pouvez vous élever ». Il facilite notre élévation pour que nous puissions voir les choses de haut, que nous puissions voir de loin ce qui pourrait nous arriver. L'amour de Dieu est ensuite pardon et patience. Il est soin. Quand nous ne portons pas de fruits de bonté et de justice, il ne réagit pas par la destruction, mais en redoublant de présence auprès de nous, en redoublant d'appel, en redoublant d'amour, avec un prophète et encore un, puis finalement par le Christ. C'est cet amour qui se manifeste en Christ, par sa vie et par ses paroles, par toutes les bénédictions dont nous sommes comblés. C'est un amour, l'amour que manifeste le Christ, un amour qui s'engage à fond, encore et encore. Alors les intégristes de l'époque, ils se sentent concernés par cette parabole de Jésus. Mais au lieu de la comprendre comme une aide, comme une main tendue par Jésus, ils fulminent et cherchent à l'éliminer. C'est à peu près aussi crétin que de casser un baromètre en se disant que comme ça, il va se mettre à faire beau. La croix est la manifestation de cet amour de Dieu. Le geste de Jésus dit que, contrairement à ce que nous disait notre propre culpabilité ou les intégristes, Dieu nous est, nous a toujours été et nous sera toujours favorable, envers et contre tout. Alors chacun des dons de Dieu qui est évoqué ici par Jésus, ils sont bien sûr à méditer pour bénéficier de ces bons soins offerts par Dieu. Et ce n'est plus seulement de la théologie, c'est une pratique quotidienne qui nous est proposée par Jésus pour nous exercer à saisir ces dons et à les vivre. C'est aussi une inspiration pour vivre en essayant d'apporter aux autres autour de nous eh bien, des soins, nous aussi, des soins comme ceux que nous apporte le Christ tout au long de sa vie. Apporter aux autres le meilleur. L'apôtre Paul, il comprend lui aussi la croix du Christ comme une manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Avant cela, bien des personnes avaient particulièrement peur du jugement de Dieu. C'était avec crainte que l'on se tournait vers lui, qu'on essayait de faire des œuvres, de religion ou d'avoir les bonnes croyances, dans l'espérance que ça améliorerait un petit peu notre dossier auprès des services de Dieu à l'entrée du jugement. Mais l'amour de Dieu manifesté par le Christ, il change cela. Il montre que Dieu est prêt à tout donner, même quand nous sommes pécheurs, par grâce, par amour. Et donc ça, cet amour de Dieu parfait, manifesté par Christ, Ça nous change tout, notre façon de voir Dieu. Et donc ça nous réconcilie avec Dieu. Nous qui avions peut-être oublié Dieu, ou qui, comme les intégristes à l'époque de Jésus, disaient « bon, il faut se méfier de Dieu, il faut avoir peur », nous qui l'avions négligé, ou qui avions donc repoussé cette idée, Dieu, lui, n'a jamais eu besoin de se réconcilier avec personne. Il aime et il a toujours tout fait pour nous sauver. Il fera toujours tout pour nous aider. Mais c'est nous donc qui avions besoin de nous réconcilier avec Dieu. Et cette nouvelle théologie que propose Jésus-Christ jusque sur la croix, c'est bien propre à nous réconcilier avec l'idée même de Dieu et avec ce Dieu, s'ouvrir à ses bons soins. Mais comment faire entendre une personne qui ne veut pas écouter? Comment faire voir clair à une personne qui a les yeux fermés, endormie? La question clé est donc de réconcilier l'individu avec Dieu. Qu'elle ait envie d'entendre, qu'elle ait envie d'ouvrir les yeux sur ce Dieu qui vient. Alors l'apôtre Paul nous dit qu'une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, tout est gagné. Parce que Dieu pourra alors prendre soin de nous et nous aider efficacement dans notre évolution positive, nous et ceux qui nous sont chers. Grâce soit rendue à Dieu. Amen.